Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Minier, bonjour à tous.
Voilà, vous êtes d'équerre avec votre micro, votre nouveau casque.
On s'y fait petit à petit, on s'habitue à parler plus loin en fait.
Voilà, au sommaire des enjeux aujourd'hui, Xavier, les pays du Golfe, l'union dans la rivalité.
Oui, c'est ça, vous l'avez sans doute entendu cette nuit, c'est finalement le Premier ministre japonais Shinzo Abe qui tentera une médiation entre l'Iran et les États-Unis, un développement inédit alors qu'il y a une semaine encore, c'était le roi Salman d'Arabie Saoudite qui tentait d'isoler la République islamique, lui qui avait convoqué pour ce faire trois sommets arabes à la Mecque. Il a tenté de constituer un front arabe commun timide alors que l'unité interne du Golfe est elle fragilisée 2 ans après la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Alors qui peut stabiliser la région? On essaye de joindre Karim Sader qui se trouve à Beyrouth, qui est politologue et consultant spécialisé dans les pays du Golfe. La ligne pour l'instant est difficile à obtenir. Simplement quelques éléments sur ces trois sommets. C'était celui, donc les trois en 2 jours qui se sont tenus à la fin de la semaine dernière, les 30 et 31 mai. Premier sommet, celui de la Ligue arabe. Sommet ensuite du Conseil de coopération du Golfe et puis sommet de l'Organisation de coopération islamique vendredi dernier, le 31. Une situation assez intéressante et inédite pour l'Arabie Saoudite, donc le grand pays du Golfe, inédite puisqu'il était en crise de popularité après l'affaire Khashoggi et puis son action au Yémen. Alors on a réussi à joindre Karim Sader, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Je rappelle donc que vous êtes politologue, consultant, spécialiste du Moyen-Orient, pays du Golfe et professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Je rappelais donc dans mon introduction ces trois sommets à la fin de la semaine dernière qui se sont tenus en Arabie Saoudite. Simplement, le fait qu'elles tiennent trois sommets coup sur coup à l'Arabie Saoudite, c'est une situation inédite tout de même.
Oui, alors ce qu'on voit... Alors déjà, il faut noter que c'est quelque sorte un hasard du calendrier, parce que se tenait en même temps le sommet de l'organisation de la conférence islamique, et puis il y a eu les exigences de l'actualité, c'est-à-dire ces sommets ont fait suite, ce sont des réunions d'urgence qui ont été convoquées par Riyad, suite donc aux incidents qui ont eu lieu contre les infrastructures pétrolières de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis fin mai. Donc voilà, c'est l'Arabie Saoudite en quelque sorte aussi cherche à redorer son blason, qui est extrêmement écorné depuis déjà quelques années,
oui.
Et à focaliser aussi l'ensemble des acteurs de la région, de ses alliés en tout cas, du Conseil de coopération du Golfe face à la menace iranienne.
Et ces incidents, vous l'avez dit, c'était 4 bateaux, dont 2 pétroliers qui avaient été victimes de sabotage. John Bolton avait parlé de mines iraniennes. Est-ce que, on va en venir à l'Iran, mais simplement, est-ce que le fait d'avoir réussi à convoquer 2 sommets extraordinaires, celui du Conseil de coopération du Golfe et de la Ligue arabe, c'est une bonne affaire diplomatique de ce point de vue-là pour l'Arabie Saoudite en crise de popularité, on pourrait dire?
Oui, mais il faut dire quand même que le résultat de ces sommets est assez mitigé, parce qu'elle a réussi, certes, l'Arabie, à réunir tous ces gens-là et à déclarer, en quelque sorte, à produire une déclaration officielle, donc, où encore une fois, on focalise, on enlève les sujets de divergence de côté, on les met sous le tapis, et puis on affiche donc l'épouvantail iranien, sauf que finalement, cette déclaration, officieusement, n'a pas été suivi par un certain nombre d'acteurs clés. Je pense à l'Irak, par exemple, mais aussi au Qatar, qui est un membre aussi du Conseil de coopération du Golfe et qui n'a pas adhéré à cette déclaration.
Oui, oui. Ce qui fait que finalement, si on entre dans le détail, il y a eu une condamnation des actions iraniennes par le Conseil de coopération du Golfe, également par la Ligue arabe, mais pas par l'Organisation de coopération islamique, c'est bien ça?
C'est un peu plus compliqué, effectivement, dans le cas de cette dernière organisation que vous avez citée. Il faut rappeler qu'il y a la Turquie qui en est membre, et l'Iran aussi. Donc c'est un peu plus difficile. On voit bien que quand on sort du précaré saoudien du Golfe, il est plus difficile de produire un consensus. Et je dirais également que même si l'Arabie Saoudite a réussi à faire adhérer l'ensemble des adhérents de la Ligue arabe et du Conseil de coopération du Golfe à cette déclaration officielle. Dans les faits, sur le terrain diplomatique, force est de constater que il n'y a pas la même attitude adoptée par l'ensemble des membres du CCG. Le Qatar entretient des relations assez proches avec l'Iran. Je ne parle même pas d'Oman qui a des relations privilégiées avec Téhéran.
Et par contre, il y a un sujet qui a fait consensus à l'Organisation de coopération islamique, c'est la dénonciation du transfert de l'ambassade américaine et l'appel, je crois, à un boycott, je ne sais pas si c'est des termes officiels, mais des pays qui ont ouvert une ambassade sur place. Ça, c'est un peu le seul sujet capable de réunir encore les pays arabes, en tout cas au sein de l'Organisation de coopération islamique.
Oui, vous avez raison de souligner, en tout cas au sein de l'OCI, parce que finalement, dans le sommet de la Ligue arabe, et ça a été énormément pointé du doigt par les détracteurs de l'Arabie Saoudite, que ce soit à l'issue du sommet de la Ligue arabe et celui du CCG, finalement la question palestinienne a été reléguée au second plan. Et on voit bien l'évolution finalement de la politique étrangère saoudienne qui, au fur et à mesure des années, a fini par abandonner en quelque sorte la question donc... Vous savez, cette carte à charge très émotive au sein de la rue arabe, qui est la question du peuple palestinien, finalement, elle a relégué au second plan, quitte à se rapprocher. On sait très bien que l'Arabie Saoudite est aujourd'hui un allié d'Israël, s'est rapproché énormément de l'État hébreu, à côté des Émirats Arabes Unis d'ailleurs. Donc on voit bien que cette question a été au contraire reléguée au second plan, au profit justement de la question de la menace iranienne qui est en quelque sorte l'obsession de la monarchie saoudienne.
Alors ça c'est pour les communiqués sur la question de la forme, mais qui n'en est pas seulement, c'est la participation. Il y a une absence qui a été remarquée, c'est celle du président Erdogan. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères Çavuşoğlu à la place. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte? C'est un désaveu, c'est une manière de signifier son désaccord à l'Arabie Saoudite?
Alors il faut pas oublier déjà que il y a plane encore dans la relation entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, la terrifiante affaire du journaliste, du malheureux journaliste Khashoggi, donc qui a été assassiné au consulat saoudien en Turquie, et qui a entraîné un froid entre ces deux pays qui, je rappelle, sont en concurrence. Il faut savoir que la Turquie et l'Arabie Saoudite se disputent le leadership au sein d'un monde sunnite très divisé. Il y a donc cette question-là. Il ne faut pas oublier non plus que la Turquie est un parrain international de la confrérie des frères musulmans qui sont honnis par l'Arabie Saoudite, qui est la menace première, je dirais, bien plus que l'Iran d'ailleurs, pour la stabilité de la monarchie saoudienne. Donc effectivement, on a encore donc cette affaire Khashoggi et c'est sur fond de lutte de leadership sunnite qui plane encore sur l'organisation de la conférence islamique.
Et de ce point de vue-là, deux questions en une, mais est-ce que on aurait tort de dire que c'est encore la principale ligne de fracture, cette rivalité justement pour un leadership sunnite Arabie Saoudite d'un côté, Qatar de l'autre, et est-ce que en même temps c'est une rivalité qu'on pourrait dire d'alliance Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis contre Qatar et Turquie de l'autre côté?
Oui, c'est même si ce serait un petit peu simplificateur, mais en quelque sorte, oui, il y a des alliances qui se sont dessinées ainsi. Il ne faut pas oublier que depuis le blocus qui a été décrété de manière unilatérale par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, donc il y a un blocus qui a 2 ans aujourd'hui, depuis donc le 5 juin 2017, donc il y a un blocus qui a été décrété contre le Qatar. Qatar à qui on reproche, donc pour rappel, sa politique. Alors, on reproche beaucoup de choses au Qatar, mais notamment sa politique pro-frères musulmans, et qui n'a fait qu'inciter, et donc le blocus a poussé le Qatar dans les bras de la Turquie notamment, qui dispose aujourd'hui, Ankara dispose aujourd'hui, d'une importante base militaire au Qatar. Donc effectivement, il y a eu un rapprochement encore plus important entre ces de pays qui soutiennent en quelque sorte la confrérie des frères musulmans à travers la région.
Oui, puisque vous le rappeliez, il y a 2 ans, c'était effectivement des propos attribués à l'émir du Qatar favorables aux frères musulmans et à l'Iran qui avaient déclenché la colère des autres pays du Golfe et l'ostracisme. Alors justement, rupture des relations diplomatiques, dernière question, ostracisme de pure forme, on pourrait dire, ou pas, parce que économiquement, tous les rapports montrent que le Qatar se maintient bien et qu'il a même trouvé, on pourrait dire, de nouvelles opportunités finalement dans cet embargo, en développant son agriculture par exemple.
Alors, sans minimiser non plus l'impact de cet embargo, parce qu'il faut se rendre à Doha pour quand même constater que les hôtels sont vides, les affaires sont peinent à démarrer, hein. Donc il y a un impact, mais ce n'est pas l'impact qui avait été espéré par leurs commanditaires, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, épaulés par Bahreïn d'ailleurs. À cette époque-là, Riyad et Abu Dhabi avaient parié sur la chute carrément du régime du Cheikh Tamim, de l'émir en place à Doha. Non, effectivement, le Qatar a réussi, grâce à sa politique étrangère d'équilibriste, c'est-à-dire de tisser des alliances tous azimuts, grâce à la solidité de son économie et surtout à de son secteur gazier, puisque le Qatar est l'un des premiers producteurs mondiaux de GNL, de gaz naturel liquéfié, et grâce, effectivement, vous l'avez souligné, à un surplus d'alliances qu'elle a réussi à tisser, notamment avec Oman, pour contourner ces voies d'exportation qui ont été bloquées par les Émirats et par l'Arabie Saoudite. Donc on voit bien que finalement la diplomatie flexible du Qatar lui a porté chance et lui a permis de contourner cet embargo. Et aujourd'hui, les résultats escomptés de cet embargo sont quasi caduques aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite.
Et bien merci beaucoup pour toutes vos explications ce matin. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Karim Sader, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth.